Mais bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation à présenter le programme. Effectivement, ce programme POSE, donc, dont le sigle est Programme d'aide à l'accueil en urgence de scientifiques en exil. Donc, c'est un petit peu long, c'est plus facile avec POSE. Et d'ailleurs, c'est Pascal qui, non seulement, il faut le dire, parce qu'il ne l'a pas dit, a eu l'idée de ce programme, mais qui a aussi trouvé le nom de POSE. Et il est important de souligner d'emblée la sémantique du terme. Et le détail de ce sigle, puisque c'est un programme d'aide à l'accueil en urgence, donc il y a la notion d'urgence dedans, et des chercheurs en exil. Exil parce que ce ne sont pas forcément des réfugiés, ce sont les chercheurs qui sont en danger, contraints à l'exil pour pouvoir poursuivre leurs travaux. Et donc, c'est une catégorie beaucoup plus large que les simples réfugiés sous protection internationale. C'est aussi des personnes qui sont soit dans leur pays d'origine, soit en France, mais dans une situation d'urgence. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, le programme POSE est effectivement cette réponse que la France a voulu donner face à cette situation de certains qui sont censés, enfin qui ne peuvent pas poursuivre leurs travaux, soit parce qu'ils sont soumis à des persécutions politiques, soit parce qu'ils fuient la guerre. Pascal a très bien expliqué les différents types de dangers que le programme essaie d'inclure dans son processus. Alors, je voudrais vite rapidement présenter un petit peu la genèse du programme très rapidement, parce que Pascal en a déjà longuement parlé. Ses principes, son fonctionnement, pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Alors, c'est un programme qui tente de répondre à nombreuses questions qui ont été posées, qui y répond partiellement. Effectivement, on ne peut pas répondre à l'ensemble de ces questionnements, mais justement, on essaie de travailler et en développant le programme, pouvoir répondre de façon, de plus satisfaisante. Et on parlait d'intégration des chercheurs. Et effectivement, POSE, on peut se dire qu'on a 20 mois d'existence. On essaye de passer progressivement d'un programme d'accueil à un programme qui accompagne l'intégration. C'est très ambitieux et pour l'instant, on a des moyens limités pour ça. Mais c'est vraiment le processus par lequel on est passé ces 20 derniers mois. Voilà. Donc la genèse du programme, c'est effectivement l'électrochoc qui a constitué l'exécution donc, des archéologues de Palmyre dont a parlé Pascal et qui a suscité une mobilisation dans la communauté des archéologues et puis globalement dans la communauté des chercheurs qui a alerté le secrétaire d'État Thierry Mandon et dont Pascal était la conseillère. Et face à cette situation, cette urgence, elle a réfléchi. Je parle pour elle parce qu'elle a modestement tue cette jeunesse. La façon de créer un dispositif un peu plus structuré pour accueillir ces chercheurs, puisqu'en effet, en France, il n'existait pas de dispositif d'accueil. Les établissements essayaient de bricoler dans leur coin des dispositifs, des initiatives et des accueils, mais il n'existait pas de soutien au niveau national. Ce programme a été lancé en janvier 2017. Il a fait suite à l'annonce qu'avait faite Thierry Mandon au colloque de rentrée du Collège de France sur l'exil, migration, Thierry Mandon avait annoncé ce programme et le Collège de France, parallèle, avait constitué, d'ailleurs avec le soutien de Pascal, un comité de parrainage de ce programme. Donc, ce qui a conduit à pouvoir faire piloter le programme par le Collège de France. Parce qu'on était en janvier, fin d'année 2016, début 2017, les élections arrivaient, on ne savait pas quelle serait leur issue, et il était important de trouver un sanctuaire pour ce programme politique, et puis aussi parce que le programme avait vocation à être d'une part financé par du public, mais aussi à être approprié par la société civile, et donc aussi à trouver du financement privé et donc aussi par là une certaine autonomie, ce qui explique qu'il a été demandé au Collège de France de piloter le programme. Mais il s'agit bien d'un programme national qui réunit dans son comité de direction ses instances décisionnelles, un certain nombre de ministères, à commencer par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a été à l'initiative du programme et qui le finance, donc il a financé pour a octroyé la dotation initiale et puis qui est le principal financeur du programme, mais aussi ministère des Affaires étrangères et ministère de l'Intérieur. Et là, effectivement, on parle de la question du départ des pays d'origine et de l'arrivée en France de certains chercheurs qui sont contraints, et je pense en particulier aux Turcs, de quitter leur pays de façon illégale, puisque pour beaucoup des pétitionnaires, non seulement on les a destitués, limogés et accusés de terrorisme, mais aussi on leur a confisqué leur passeport. Ce qui fait qu'un certain nombre de nos chercheurs, les chercheurs qui sont soutenus dans le cadre du programme, certains sont encore bloqués en Turquie, je reviendrai tout à l'heure sur ce point, et donc ne peuvent pas rejoindre la France. Et donc d'autres ont réussi vaille que vaille, mais en prenant des bateaux, certains en se faisant arrêter et retenir en centre de détention. Donc c'était très important d'avoir un soutien de ces ministères qui, il faut le dire, font un travail et se mobilisent pour certains de nos lauréats, et ce qui a permis à un certain nombre d'entre eux d'arriver en France et de trouver une situation légale, avec toutes les limites effectivement que ça implique, puisque beaucoup viennent sur ce que disait Pascal, des passeports talent chercheur, mais qui sont liés à un contrat de travail. Donc effectivement, lorsqu'il n'y a plus de contrat, la précarité revient, et donc lorsqu'ils quittent le programme, qui ne sont plus financés en cadre du programme, se repose la question de cette urgence. Et donc, on y reviendra tout à l'heure. On essaye, nous, de trouver, si ce n'est des solutions, en tout cas, d'accompagner au maximum. Alors, les missions de pause, concrètement, le principe, c'est de financer, cofinancer les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui recrutent ces chercheurs en situation de danger. C'est du cofinancement, donc le programme prend en charge 60% du budget qui peut inclure, parce qu'il s'agit d'un accueil large aussi, de l'hébergement, des cours de langue. Dans la mesure où c'est du cofinancement, les établissements doivent effectivement apporter 40%, ce qui est aussi une limite d'une certaine façon, compte tenu des ressources limitées. Mais c'était un pari, et initialement on ne savait pas quelle serait la réponse. Et de fait, les établissements se sont beaucoup, beaucoup mobilisés, puisqu'aujourd'hui, il y a plus d'une soixantaine d'établissements qui accueillent ces chercheurs. Et quand je dis établissements, ça peut être les universités, les labos de recherche, les grandes écoles. Établissements qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi du ministère de la Culture, qui a rejoint le programme, sachant que le programme est évidemment, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais... soutenu par les grands organismes CNRS, INSERM, INRA, INRIA, je ne les cite pas tous. Donc le fonctionnement de pause, concrètement, ce sont donc des chercheurs en situation d'urgence. Alors il y a deux canaux qui d'ailleurs reprennent la discussion que vous venez d'avoir. Le premier canal, ce sont des chercheurs qui ont des réseaux en France, pour beaucoup, comme pour Oscar Rescue Fund, ont fait leurs études, sont rentrés dans leur pays, et puis face à une situation d'urgence et de danger, réactivent leur réseau. Et donc beaucoup des chercheurs qui sont soutenus dans le cadre du programme relèvent de cette catégorie. Donc on a beaucoup de Syriens notamment. Pour les Turcs, c'est un petit peu différent, parce qu'on a effectivement beaucoup de... Je reviendrai sur un peu les profils, mais on a beaucoup de Turcs, mais qui sont notamment qui ont pu être bien soutenus dans le cadre du programme, parce qu'il y a une association, un comité de soutien des chercheurs turcs qui ont signé cette pétition dont parlait Pascal, qui a fait un gros travail aussi de mise en relation entre les chercheurs et des établissements. Et c'est justement l'autre canal du programme et l'autre mission du programme, qui est que pour ceux qui n'ont pas de réseau en France et qui nous sollicitent, nous essayons de trouver des établissements d'accueil, à travers, très concrètement, mais c'est là aussi la limite, hein, c'est, on met sur notre site internet des profils uniquement académiques, donc il n'y a que des informations, on ne donne pas ni le genre ni l'origine, pour vraiment être ciblé sur la situation académique, et puis aussi pour des raisons de sécurité, bien sûr. Et puis, donc, les établissements peuvent aller consulter le site pour voir si des profils les intéressent. Alors, bien évidemment, cela suppose une proactivité. Donc, nous, maintenant, ce qu'on essaie de développer, c'est de pouvoir, à travers une chargée de mission qui va faire ce travail, de cibler de façon, accompagner de façon individuelle les chercheurs pour leur trouver des établissements. parce que c'est, enfin, voilà, c'est un travail, j'allais dire, pratiquement à temps plein, que de leur trouver cette avenue. Encore faut-il que les chercheurs nous sollicitent et qu'ils connaissent l'existence du programme POSE. Et là aussi, on revient à ces limites. Et de fait, quand on regarde un petit peu les profils, les 60% quasiment de nos chercheurs sont des chercheurs turcs, compte tenu de la situation dont je viens de parler. On a à peu près un tiers de Syriens. Et donc, en fait, en gros, 10% qu'il reste se partagent entre différentes nationalités. Alors, évidemment, irakiens, yéménites, maintenant des vénézuéliens, d'un russe, Afghanistan, Pakistan, mais c'est vraiment c'est un chercheur de chaque nationalité. Et pour la première fois, il y a 2 mois, on a eu un chercheur originaire d'Afrique subsaharienne, en l'occurrence un Burundais, et au bout de 18 ah oui. mois d'existence.
Donc, très important, oui.
Voilà, ça, c'est étonnant, parce qu'on s'attendait effectivement à avoir quand même des chercheurs originaires d'Afrique subsaharienne, et il n'y en a pas eu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le programme est peu connu, si c'est une question de, voilà, de notoriété, c'est une question de réseau. Donc, nous, dans... On essaie,
c'est,
voilà, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est utiliser les canaux dont on dispose, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, les ambassades, l'IRD qui a beaucoup d'antennes en Afrique. On essaie de aussi passer par des associations, par le HCR. On essaie de trouver des canaux pour diffuser nos appels à projets, enfin à candidature, puisqu'on on fonctionne par projet d'appel à candidature. On a eu 5. Mais effectivement, c'est pas forcément évident de toucher en fait des populations qui pourraient être concernées et intéressées par ce programme. Donc là aussi, c'est voilà, c'est une des pistes et d'actions prioritaires qu'on se fixe, même si c'est assez complexe. Alors pour revenir au profil, on a parmi nos chercheurs 2/3 de chercheurs issus des sciences humaines et sociales, justement, ce qui s'explique par l'engagement de ces chercheurs, et notamment aussi par la présence des Turcs, parce que la plupart des lauréats turcs sont issus des sciences humaines et sociales. On a un tiers donc de sciences exactes, et parmi les chercheurs dans la discipline sont les sciences exactes, on a beaucoup de Syriens. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, par nationalité, on a des chercheurs qui correspondent à la discipline. On a un tiers de doctorants, parce qu'effectivement, contrairement aux autres programmes, le programme POSE souhaite financer des doctorants, qui sont considérés évidemment comme des chercheurs, des jeunes chercheurs, mais des chercheurs. Et puis on a pour moitié des femmes. Et ça aussi, c'est notable et c'est important de le dire. Donc, comme je disais, ils sont répartis dans une 60aine d'établissements. La moitié en Île-de-France et l'autre moitié en province, avec quelques établissements qui, évidemment, sont particulièrement mobilisés. Le HESS, qui est l'établissement qui compte le plus de lauréats POSE, une quinzaine. Paris 8, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une mobilisation. Et du reste, ça fait partie des défis pour nous. Et là, j'en viens un petit peu à la suite, aux perspectives et à nos défis et à nos tentatives de réponse à ces défis. Le premier défi, c'est de mobiliser les établissements, d'assurer qu'ils continuent à se mobiliser, parce que là, on est à pratiquement 2 ans de programme, et ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'essoufflement. Nous, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un financement européen qui nous permet de quasiment doubler notre budget, mais comme il s'agit du cofinancement...
C'est un cofond, c'est une sorte de... C'est un cofinancement.
Alors, le financement européen, c'est un cofond, et nous... Nous aussi, on est un cofond avec les établissements.
Oui, je comprends. C'est doublé. C'est un double cofond.
Voilà. Donc nous, maintenant, on a plus de moyens, mais encore faut-il que les établissements aient aussi plus de moyens pour présenter des candidats. Et donc ça, c'est une vraie question, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit affaiblissement qu'on a constaté lors de ce 6e appel à candidature qui s'est clos en septembre. Parce qu'on voit que beaucoup d'établissements se sont beaucoup mobilisés, mais arrivent aussi un peu au bout de leurs ressources. Donc pour nous, il est très important de mobiliser ceux qui le sont déjà, mais d'élargir le réseau des établissements partenaires. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, et donc on peut aussi faire plus de renouvellement, puisqu'on était sur un financement d'une année, et maintenant, effectivement, grâce à des moyens plus importants, on peut de façon plus large financer des deuxièmes années. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un petit peu un effet de vase communicant. C'est-à-dire que maintenant, on a plus de demandes de renouvellement, mais du coup, on a moins de demandes en première candidature parce que les établissements préfèrent finalement poursuivre l'accompagnement de leurs chercheurs plutôt que de se disperser entre guillemets sur. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième défi, c'est évidemment l'après-pause. Et donc, on revient à cette fameuse question de l'intégration, puisqu'on a là, nous, on est dans de l'accueil. Alors maintenant, c'est de l'accueil 1 an, l'accueil 2 ans, mais ça reste très court, surtout pour ceux qui viennent, qui arrivent de leur pays d'origine, qui sont contraints de passer par toutes les démarches d'installation qui sont un vrai labyrinthe et qui leur font perdre en général des semaines, voire des mois de travail. Ils sont souvent en plus accompagnés par leur famille, donc il faut aussi s'occuper de l'arrivée et de l'insertion de leur famille. Donc le problème, c'est les débouchés. Alors, comme le disait Pascal, malheureusement, beaucoup de nos lauréats, ce qu'on nous appelle des lauréats, ne trouveront pas nécessairement des débouchés dans le circuit académique. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une veille pour essayer d'identifier des financements auxquels ils pourraient répondre. Évidemment, ces établissements d'accueil qui sont quand même censés, qui ont la première responsabilité de les accompagner dans la suite, mais tous n'ont pas ni les moyens, ni les ressources, ni humaines, ni en poste, en support. Donc ça, c'est un vrai sujet. Nous, la réponse qu'on peut apporter, qui est très modeste, c'est essayer de trouver de l'information pour les aider sur la suite, mais c'est évidemment assez insatisfaisant. Alors pour d'autres, ceux qui ne trouveront pas et qui ne souhaitent vraiment pas aussi se tourner, enfin ceux qui ne pourront pas trouver des postes en université et qui acceptent aussi l'idée d'une réorientation, on essaye de développer ce qu'on appelle un parcours d'accompagnement. Alors ça, c'est aussi grâce à ce financement européen, donc c'est tout nouveau, en essayant de leur proposer des ateliers à la fois pour les familiariser avec les méandres du monde du travail en France, et puis les accompagner dans une recherche d'emploi, mais qui soit y compris hors du circuit académique, ce qui est très difficile parce que c'est des gens qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur famille. Alors si en plus on leur demande de quitter leur passion qui est la recherche, c'est très compliqué. Mais certains s'y résolvent et donc sont en demande d'un accompagnement pour cela. Donc c'est une des missions qu'on va développer ces prochains mois, d'aide à l'insertion professionnelle et à la stabilisation, et y compris hors du circuit académique. Je terminerai peut-être aussi par l'avenir et l'élargissement du programme à la culture. Pour l'instant, les chercheurs qui bénéficient du programme, les lauréats, comme je le disais, sont des chercheurs accueillis dans des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publique du ministère d'enseignement supérieur et plus maintenant sous tutelle du ministère de la Culture. La question, c'est peut-être essayer d'élargir à l'accueil des professionnels de la culture, voire des artistes. Mmh. Alors ça nécessiterait évidemment de repenser un peu le programme ou de faire un peu un sous-programme parce qu'évidemment, on ne va pas appliquer les mêmes critères à des artistes qu'à des chercheurs. Notre critère principal, c'est d'être soit en doctorat, soit être docteur. Donc évidemment, un métier de la culture, à part les architectes, il y a quand même peu de cycles doctoraux. Et puis de toute façon, c'est pas forcément ces profils-là. Donc on est en plein, on a lancé cette réflexion et c'est j'allais dire, la prochaine étape. Et puis par ailleurs, on essaie de participer aussi à notre petit niveau et surtout grâce à nos lauréats, la recherche qui peut se faire sur ces sujets-là. Et donc là, si effectivement les projets de Pascal, projets de recherche de Pascal, on s'y pose, peut y participer d'une manière ou d'une autre, notamment à travers ses chercheurs, c'est évidemment un des objectifs que l'on a. Et puis participer à ces missions de plaidoyer, d'alerte, en lien avec les autres programmes à l'étranger. Donc les programmes dont parlait Pascal, donc il y a un programme en Allemagne qui s'appelle la Philipp Schwarz Initiative, qui est un programme de la fondation Humboldt. Et puis un programme au Royaume-Uni, le programme CARA, et deux programmes américains dont a parlé Pascal. Donc on travaille avec eux. Les programmes américains, depuis l'arrivée de Trump et les décrets Trump, ne réussissent plus à placer un certain nombre de leurs candidats aux États-Unis. Donc jusqu'à l'arrivée de Trump, ils plaçaient 80% de leurs candidats aux États-Unis et 20% en Europe. Et depuis, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus placer que 20% de leurs candidats aux États-Unis, puisque la plupart, ils sont issus des pays qui sont justement sur les décrets Trump. Et donc, ils sollicitent l'Europe pour pouvoir placer leurs candidats. Donc, on travaille étroitement avec eux et on essaie de... Ben voilà, parfois, on cofinance les candidats ou en tout cas, on essaie de les aider à trouver des établissements d'accueil. Et puis, effectivement, Pascal me le rappelle, je n'ai pas mentionné le nombre de chercheurs qu'on a pu accueillir à l'issue de ces 5 appels. Donc, 140 chercheurs, 25 renouvellements. Sachant que parmi ces 140, et je terminerai là-dessus, et donc c'est une note effectivement assez inquiétante, c'est qu'on a 25 Turcs bloqués en Turquie. Donc un certain nombre de nos chercheurs ne peuvent pas rejoindre la France. On a une Syrienne qui est repartie parce qu'elle était venue une première année sans son fils parce que son mari avait été assassiné et que donc la garde avait été confiée à son oncle. Et donc elle était venue seule, elle a voulu repartir pour récupérer son fils, elle a pas pu revenir. Voilà, donc on a des histoires terribles, on essaye tant qu'on peut de les aider à sortir, mais c'est vraiment très compliqué. Voilà. Bon, je suis désolée, du coup je termine sur quelque chose, mais ça reflète bien aussi les limites du programme. Même si on fait le maximum pour y répondre.
D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, parce qu'en effet, ce programme pose... D'abord, je découvre qu'en effet, tu étais à l'initiative au départ depuis ce ministère dont tu as été membre pendant un certain temps. Et donc, alors, ce programme pose a pris de l'ampleur, donc si j'ai bien compris, vous faites du temps, hein, au-delà de, comment dirais-je, de ce qu'il était, donc grâce à un financement européen. Alors, comment dirais-je, parce que comme l'avenir est quand même à ce que vous avez dit là à la fin, en particulier par rapport aux États-Unis, etc., ça veut, donc la pression, en quelque sorte, sur l'Europe, hein, va être de plus en plus grande. Hein, donc, c'est ça, hein, parce qu'au-delà de l'Europe, c'est ça. Oui. Une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'en effet, mis à part l'Europe, comme la France en faisant partie, évidemment, et puis il y a des pays d'Europe où c'est exclu, n'est-ce pas ? Donc, de l'Europe, il reste quoi ? Je veux dire, il reste sur l'Allemagne, hein, l'Angleterre, probablement, encore que, sans doute la France, évidemment. On pourrait dire la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas, etc. L'Espagne, je ne suis pas sûr. Le Portugal, encore moins. L'Italie, n'en parlons pas. Donc, autrement dit, le nombre de pays européens à pouvoir développer des programmes d'accueil avec la suite que ça implique, hein, c'est-à-dire, parce que la suite, ce n'est pas seulement l'accueil pendant un an ou deux, c'est tout ce que ça veut dire après. Hein. Donc c'est quelque chose de très très lourd. Hein. Voilà, donc c'est un horizon. Quand je parlais du Brésil avant, et sans doute ça va être ça qui va arriver. Donc on voit que la Turquie a été un pays bien sûr qui a fourni la Syrie, etc., lié soit à des crises au Moyen-Orient, soit à ce qui se passe. Mais il va y avoir une augmentation probablement encore plus grande de pays. Les gens vont devoir partir, hein, en tout cas, voilà. Donc, et comme le nombre de pays d'accueil possible se restreint lui-même, hein, c'est ça aussi. Parce qu'il y a ça. Hein, la question se pose là, véritablement de comment c'est des équations compliquées à résoudre. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire.